Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast consacré au défi de janvier. Alors, qu'est-ce que le défi de janvier? Pourquoi et comment le relever? Retrouvez les conseils du professeur Beniamina, addictologue et président du fonds Addicted, partenaire du groupe Vive. Professeur Beniamina, bonjour.
Bonjour.
Alors, professeur Beniamina, parlez-nous du défi de janvier. Quels sont les principes de cette campagne?
Alors, les principes de cette campagne, comme son nom l'indique, c'est un défi, c'est-à-dire on se donne pour objectif de cesser de consommer de l'alcool ou bien d'éliminer sa consommation d'alcool après un mois de décembre qui, de manière légendaire, est un mois des excès autorisés. Tous les excès, en particulier l'alcool. Donc, on est parti du principe que c'est un mois de janvier nous permet, dans une ambiance festive et ludique, de décontraction, de se détoxifier, de s'arrêter de consommer de l'alcool, mais sans contrainte et sans prescription médicale, si je puis me permettre. Et donc, c'est cet esprit qui a prévalu à la mise en place de ce fameux défi de janvier, qui a commencé à être le Dry January, vous savez, le mois sec en Angleterre, qui a été initié par les associations en 2013. Voilà, c'est en gros s'arrêter, s'éprouver, voir un peu où on en est, et inverser en quelque sorte la tendance des abstinents ou bien de ceux qui ne consomment pas versus ceux qui consomment et qui pendant le mois de janvier sont, on aimerait, soient plutôt minoritaires.
Alors quels sont les bienfaits que l'on peut attendre en s'inscrivant au défi de janvier?
Bon, les bienfaits sont nombreux. Maintenant, nous avons un peu de recul sur la troisième édition et nous avons surtout le recul de nos collègues qui ont publié avec une méthodologie scientifique. C'est d'abord et avant tout une perte de poids, un meilleur sommeil, une amélioration de, par exemple, de la tension artérielle, parfois même une amélioration de la glycémie. C'est aussi le fait de pouvoir gérer sa consommation d'alcool en dehors du mois de janvier. C'est aussi se voir par rapport à ce qu'on pensait être notre consommation habituelle, qui est très souvent minorée ou minorisée, en quelque sorte, si je puis me permettre. Voilà. Donc, c'est travailler à la fois sur des critères objectifs, que je viens de citer, et en même temps, avoir un effet sur la subjectivité de la quantité d'alcool qu'on consomme habituellement. Ça a aussi un effet intéressant, c'est qu'une fois fini ce défi de janvier, on a... on ne parle pas de maîtrise, parce que la plupart de ceux qui le font n'ont pas de problème avec l'alcool, mais on arrive à savoir à quel moment on peut ne pas consommer, même si ça reste des consommations maîtrisables.
Alors, en cette période tourmentée de crise sanitaire, après les confinements, le télétravail, le travail hybride, on pourrait penser que cette période a induit une réduction du nombre d'occasions de partage, de rencontres et donc de boire de l'alcool. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas?
Alors, ce n'est pas le cas. Alors, évidemment, ça ressemble plus et ça nous parle plus lorsqu'on évoque le confinement, le premier. C'était le confinement le plus dur. On s'est retrouvé finalement fermé à l'intérieur de chez soi, avec des déplacements qui étaient organisés, rythmés et contingentés. Et un certain nombre de personnes ont majoré leur consommation, soit pour des raisons festives, parce qu'il y a de l'ennui, soit pour lutter contre une anxiété, une dépression, un isolement. On voit bien que quand on regarde à la fois les enquêtes d'opinion, et puis les études qui sont sorties depuis, que les Français ont majoré toutes leurs consommations. Pour ceux qui avaient une consommation régulière, et qui n'étaient pas problématiques, pour certains l'est devenu, et d'autres ont arrêté. Il n'y a pas que le fait de passer de l'autre côté. Et donc, oui, je pense que ce défi de janvier est aussi une manière de gérer une situation exceptionnelle. Ça donne un cadre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un défi fait seul à la maison. Il y a une communauté qui s'est établie maintenant depuis quelques années, à travers l'action des associations, le partenariat qui s'est établi entre nous, à travers des forums, des sites internet, des applications, une sorte d'éphéméride qui nous raconte un peu quelles sont les situations au cours desquelles on peut être sollicité et qu'est-ce qu'on met en place pour éviter, transformer ce qui peut être une contrainte ou un début d'ennui par plutôt quelque chose de très positif. Et puis, il y a un événement aussi nouveau, c'est que les villes se sont associées cette année au défi de janvier.
Est-ce que, d'une manière générale, le verre d'alcool appelle le verre d'alcool et il faut être vigilant?
Dit comme ça, ça rappelle surtout des problèmes de personnes qui ont des problèmes avec l'alcool. Un verre d'alcool qui en appelle un autre, qui en appelle un troisième, c'est la dynamique des personnes dépendantes ou bien des personnes qui ont perdu leur capacité à s'abstenir, ou leur liberté de s'abstenir. Non, pas systématiquement. Mais un verre d'alcool n'est jamais banal. L'alcool est un produit nocif, même à faible dose. Je ne dis pas qu'il l'est systématiquement. C'est un produit exogène. Quand on consomme de l'alcool, l'organisme doit s'adapter pour pouvoir supporter les effets toxiques de l'alcool. Mais bon, n'entendez pas dans ma bouche que toute prise d'alcool est nocive. Mais ce n'est pas un produit banal.
Alors, de façon pratique, pragmatique, comment peut-on relever ce défi de janvier? Quels sont vos premiers conseils, professeur?
Eh bien, je pense que un certain nombre de personnes l'ont fait et refait. C'est organiser ça sans moi avec des rendez-vous sympathiques, trouver des produits de substitution, entre guillemets, de détoxifiants agréables, ne pas verser dans le sucré non plus, donc ça c'est le piège, hein. L'alcool étant suffisamment sucré, donc c'est peut-être l'occasion aussi de faire attention pour perdre du poids, pour ceux qui en ont, trop. S'inscrire dans des communautés pour pouvoir savoir comment se passe ce défi de janvier pour les autres. Ne pas s'enfermer à la maison, casser ce pensif qui associe systématiquement les sorties, les plaisirs, les dîners, les fêtes à l'alcool. Ça, c'est extrêmement important. Il y a une attente d'ivresse, ou bien de bien-être, ou bien de gaieté, associée forcément à la consommation d'alcool. Ça aussi, c'est un élément sur lequel il faut jouer pour pouvoir désaffairer ou bien la consommation d'alcool au plaisir. Ça, c'est très important. C'est le principe de la dénormalisation aussi de l'alcool. Ce n'est pas une norme de consommer pour tout. Et donc, ce mois est vraiment très vertueux là-dessus. Et surtout, ne pas penser que le défi de janvier, c'est un mois dans lequel on va soigner les personnes qui sont alcooliques. Ce n'est pas le but.
Mais en tout cas, les bonnes attitudes ne doivent pas se limiter à ce mois de janvier. Mais c'est déjà un premier pas.
Oui, mais quand on fait un mois sans consommer, quand on y arrive, on se rend compte qu'on est parti sur un pli intéressant. Alors évidemment, quand arrive le mois de décembre, il est oublié, mais on a quand même 11 mois pour pouvoir éprouver cette période au cours de laquelle on est fier d'avoir arrêté de consommer.
Merci professeur.
T'en prie.
Maintenant que nous avons entendu la voix d'un spécialiste, écoutons le témoignage de Suzelle. Elle partage son expérience et les bénéfices non négligeables qu'elle a constatés en relevant le défi de janvier lors des précédentes éditions. Bonjour Suzelle.
Bonjour.
Racontez-nous un petit peu ce qui a été l'élément déclencheur, ce qui vous a motivé à participer à ce défi de janvier.
Eh ben en fait, tout est parti par hasard. Je suis tombée via les réseaux sociaux sur cette annonce du défi de janvier et j'ai lu ce que c'était. Je me sentais pas forcément bien concernée. Voilà, j'avais 43 ans à l'époque, une consommation d'alcool quand même régulière, au moins toutes les semaines. Voilà, je me suis lancée en fait dans ce défi de janvier.
Voilà, donc vous disiez une consommation d'alcool régulière, au moins toutes les semaines, c'est quoi? C'était
Les sorties avec les copains, le vendredi soir, c'était assez régulier qu'on aille boire un verre au bar. Et puis à la maison, une bouteille, voire peut-être même deux bouteilles de vin à deux avec les gens qui passent. Donc en fait, c'était peut-être, deux, trois verres par jour, au moins du vendredi pour sûr au dimanche soir où en fait on finissait les bouteilles.
Alors ces deux premiers défis de janvier, les deux précédents auxquels vous avez pris part, comment ça s'est passé?
Alors la première année, la première semaine, ça s'est bien passé. Et puis au bout de la deuxième semaine, en fait, je me suis rendue compte que j'avais des fringales de sucré. Et en fait, en discutant avec une amie, elle m'a dit, écoute, c'est ta consommation d'alcool qui fait qu'au bout de 15-20 jours, comme je n'alimentais plus mon corps en sucre, on m'a expliqué que c'était ces fringales en fait de sucré qui me prenaient justement pour compenser en fait cette dose d'alcool sucré que je n'avais plus. Donc en fait, je me suis bien corrigée et puis j'ai fini le mois, tranquille, avec un peu d'appréhension quand même de retomber dans l'alcool quotidien. Mais bon, ça s'est bien passé. Et surtout, c'est 3 kilos en moins début février. Donc ouais.
Voilà, j'allais y venir, les bénéfices pour la santé que vous avez pu remarquer.
En fait, un meilleur sommeil, parce que du coup, pas d'alcool, donc un sommeil beaucoup plus calme et pas de manque d'hydratation. Parce que je m'étais rendu compte aussi qu'en buvant de l'alcool, j'étais moins hydratée et pour le coup, je dormais moins bien ces soirs-là, sans être ivre. Hein, mais c'est vrai que j'ai ressenti une meilleure hydratation, un meilleur sommeil, donc moins fatiguée le lendemain matin quand je me levais. Et puis surtout 3 kilos en moins, ça m'a fait grandement plaisir.
Et donc, troisième défi de janvier que vous allez relever, vous l'abordez comment?
Sereinement, L'année dernière, en fait, c'est le deuxième. J'avais un petit peu pris mes précautions au niveau du sucre parce que, en fait, ça m'avait vraiment interloqué ce manque de sucre. Et donc, j'ai compensé en mangeant un peu plus de fruits l'année dernière. Et ça s'est mieux passé pour moi. Et là, le troisième, ouais, je suis super contente de le refaire parce que du coup, ça me permet de faire un point sur moi-même par rapport à la consommation d'alcool qui reste quand même, on va dire, régulière toute l'année. Mais je sais à quoi m'attendre et je sais les bénéfices que ça m'apporte. Donc, je suis à fond.
Nous encourageons Suzelle à fond pour qu'elle réussisse à relever à nouveau le défi de janvier. Son témoignage ne peut que nous inciter à rejoindre la démarche. Merci de votre écoute. Entrepreneurs du mieux vivre, le groupe Vive est à vos côtés pour relever ensemble le défi de janvier en partenariat avec le fonds Addicted.